faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
On n'arrête pas l'écho. Le débat.
Les résultats arrivent.
François Hollande.
Plus tard que je ne les avais annoncés, j'en conviens. Mais ils sont là.
1er décembre 2016.
Les comptes publics sont assainis. La sécurité sociale est à l'équilibre. Et la dette du pays a été préservée.
Au fond,
François Fillon.
La France, elle est menacée de faillite.
Candidat de la droite et du centre à la présidentielle.
Alors on se retrousse tous un peu les manches.
31 novembre 2016.
On fait un effort de travail qui n'est pas surhumain pour permettre à l'économie française de se redresser.
J'assume.
Jean-Marc Ayrault. Ancien Premier ministre de François Hollande.
D'avoir été obligé d'augmenter les impôts.
4 septembre 2014.
Mais j'assume aussi la nécessité de maîtriser ces efforts et de le faire dans la justice.
Équilibrer dépenses et recettes.
Christian Jacob, député Les Républicains.
Mais ne pas se lancer dans un matraquage fiscal.
31 octobre 2012.
Comme l'actuel gouvernement vient de s'y lancer.
L'engagement majeur que j'avais pris devant vous, c'était de faire baisser le chômage. J'ai allégé les charges des entreprises parce que c'est la condition pour qu'il y ait davantage d'emplois.
Moi, je voudrais parler du pacte de responsabilité.
Jean-Claude Mailly, secrétaire général Force Ouvrière.
La manière dont les choses ont été présentées en disant...
14 septembre 2014.
On fait un effort pour les entreprises, on demande des contreparties en termes d'emplois. On a tout de suite dit que c'était complètement illusoire.
Alors, Pierre Gattaz,
d'abord,
président du MEDEF.
Moi, j'ai jamais promis 1 million d'emplois.
10 mars 2015.
Je l'ai promis en dehors du pacte de responsabilité.
Et j'ai pris la responsabilité de réformer le marché du travail.
Faut retirer la loi El Khomri ou pas ?
28 février 2016.
Il faut retirer ce projet de loi qui...
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Qui, pour nous, est inacceptable et il faut rediscuter d'un nouveau code du travail, un code du travail moderne qui respecte les droits des salariés.
Je dirais que la France a un...
Jacques Attali.
Problème de...
Essayiste et économiste.
Projet.
4 novembre 2015.
Le pays a besoin de beaucoup plus de réformes et on ne les voit pas arriver. Cette France va lentement couler avec un orchestre qui joue sur le pont.
Les résultats arrivent. Vive la République et vive la France.
C'est la première question économique de ce débat. Quel est le bilan économique de la présidence Hollande ? Là, on a balayé large dans le zapping sonore. Le chômage, le modèle social, la fiscalité, la compétitivité, la dette, le déficit. Voilà, tout ça a été dans notre paysage. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Un premier jugement global.
D'abord, pour vous dire, j'ai été touché par l'émotion de l'homme, mais je crois que le président, quand même, c'est sur le plan économique qui nous intéresse ce matin, complètement autodissous. Autodissous dans quoi ? D'une part, dans une trop forte austérité budgétaire, d'autre part, dans une relation à l'entreprise qui n'était pas du tout une relation de gauche à l'entreprise. Il a mal œuvré pour la construction d'une gauche entrepreneuriale, et puis c'est l'échec sur le chômage. Et finalement, ces trois forces qui l'ont vraiment contraint, eh bien... s'y rajoute le fait qu'il nous a dit qu'il n'y avait pas d'alternative. Et ça, pour un président de gauche, je pense que c'est terrible.
Emmanuel Le Chypre, vous, votre jugement global ? Jugement très dur, de la part de Christian.
Oui, on peut avoir un jugement dur parce que moi, je ne retiens pas l'erreur de diagnostic. Je trouve qu'il a été assez courageux. Alors là-dessus, on s'oppose avec Christian, c'est normal. Moi, je pense que considérer que le principal problème de la France, le plus urgent à traiter, c'était la fragilité des entreprises. C'était courageux. Après, effectivement, on a eu deux parties de mandat absolument incroyables. La première partie catastrophique avec Jean-Marc Ayrault, où vous avez eu, à un niveau jamais vu dans la Ve République, des décisions qui aboutissaient exactement au contraire de ce que voulait le président
on
de la République.
Détailler, oui, on va détailler.
Et là, on a des tas d'exemples. Ensuite, Manuel Valls qui a quand même passé son temps à défaire ce qu'avait fait Jean-Marc Ayrault et qui a attaqué un nombre infini de sujets sur lesquels on a fait 10% à peu près du chemin qui aurait été nécessaire pour avoir de vraies réformes. Donc c'est d'un quinquennat dont il ne restera finalement pas grand-chose. Et quand on sait que Jean-Marc Ayrault avait passé son temps à défaire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy et que Jacques Chirac n'avait pas fait grand-chose, et ben ça va faire presque 30 ans que il ne se passe pas presque rien en France.
On reste avec vous, Emmanuel. Quand même, concrètement, maintenant, si on rentre dans le détail, qu'est-ce qui, pour vous, n'a vraiment pas marché ?
Alors, moi, je crois d'abord que quand il est arrivé, François Hollande a péché par une multitude de naïvetés. Il a d'abord cru que la croissance reviendrait toute seule. Et ça, c'était chevillé au corps, ça n'a pas été le cas. Il a cru qu'il avait du temps. Or, un quinquennat, maintenant, on voit bien que ça se joue dans les 6 premiers mois. Il a cru en les partenaires sociaux, trop sans doute. Et puis, il est arrivé avec un seul programme, l'anti-sarkozisme. La gauche n'avait absolument pas réfléchi à une vraie politique de gauche. Et ça rejoint ce que dit Christian. Parce que si on avait eu une vraie ligne, un vrai programme, une vraie stratégie, on n'aurait pas eu, après, tous les atermoiements, tous les débats, les frondeurs, Montebourg qui dit que c'est ça qui marche, pas ça qui marche. Et donc, ça, ça a été très problématique. Après, Jean-Marc Ayrault, tous les sujets sur lesquels on a abouti au contraire de ce qu'on voulait faire.
Alors,
on donne
par exemple,
juste quelques-uns.
Oui, donnez-moi des
on nous dit le logement, c'est la priorité numéro un, il faut le relancer. La loi du flot a tétanisé le secteur, la construction notamment. On a voulu encourager les créations d'entreprises. On a massacré les investisseurs. On a voulu redonner du pouvoir d'achat.
Vous
on a supprimé la défiscalisation des heures sup. On a augmenté les impôts. On a voulu relancer l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par supprimer les incitations fiscales pour l'apprentissage. Vous voulez encourager l'épargne salariale? Vous augmentez de 20% le forfait social.
Là, donc, vous êtes dans quelle temporalité, Emmanuel?
Tout ça, c'est Jean-Marc Ayrault, quasiment, au début.
Christian Chavagnier, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui n'a pas marché dès le début? Il y a des mauvaises décisions économiques, selon vous?
Non, moi, pour moi, le début, c'est la partie la plus intéressante du quinquennat. C'est ce que j'ai appelé la phase Roosevelt. Hein, la phase Roosevelt, pourquoi? Parce que Premier ministre et le Président disent il faut rétablir les comptes publics. Et ça, il fallait rétablir les comptes publics. Ça devait être la priorité, c'est sûr. Mais comment on fait? Qui paie pour le rétablissement des comptes publics? Et la première réponse, ça a été les riches vont payer. Alors, de fait, on s'est aperçu après que c'est pas seulement les riches, que les classes moyennes aussi, le haut des classes moyennes, le milieu des classes moyennes ont été touchés, mais c'était le moment où on a dit taxation du capital, comme le travail, la tranche à 45%, la taxation des plus-values boursières très forte. Voilà, ça a été la phase Roosevelt qui malheureusement, dès la fin 2012, s'est transformée en phase MEDEF, c'est-à-dire attention, on va continuer à rétablir les dépenses, le solde budgétaire, mais il faut le faire sur les dépenses, il va falloir qu'on réduise les dépenses, et puis les entreprises vont être complètement lâchées dans la nature, elles n'ont plus besoin de participer l'équilibre budgétaire. C'est les ménages, on va aller prendre de l'argent dans la poche des ménages pour le transférer aux entreprises. Les entreprises n'ont plus du tout à participer à l'équilibre budgétaire. C'est la hausse de la TVA. Hein. On voit qu'on change de politique. Et puis, il y a eu la phase ras-le-bol, c'est 2013, la phase ras-le-bol fiscale.
Ça, c'est Pierre Moscovici.
Pierre Moscovici à l'été 2013, ouais. Qui dit « J'ai bien compris que les Français en ont marre des impôts. » Et c'est vrai que ça avait été trop fort au début. Donc, il dit « J'ai bien compris. » Et là, on va sortir 2 millions de personnes de l'impôt sur le revenu, ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on n'a pratiquement jamais été aussi bas sur le nombre de personnes qui payent l'impôt sur le revenu. 45% des foyers fiscaux aujourd'hui payent l'impôt sur le revenu. Le pic de 2013 était un petit peu plus haut et je ne vous parle même pas du pic des années 80 où pratiquement tout le monde payait l'impôt sur le revenu. Pourquoi c'est important ça? Parce que ça veut dire d'une part que le consentement, un des piliers du consentement à l'impôt, c'est que tout le monde paye. Même si on a un tout petit revenu, on paye un tout petit peu d'impôt. Mais pour faire partie d'une communauté, tout le monde paye. Je pense que François Hollande a plombé l'idée de fiscalité pour je ne sais pas combien de temps dans ce pays.
Alors vous avez tous les deux visions très différentes, un jugement très négatif sur le début avec Jean-Marc Ayrault, les décisions économiques. Vous, Christian, au contraire, c'est ce qui vous paraît le plus intéressant. Mais ce que j'entends, il y a déjà un problème, c'est-à-dire que sur le déficit, Christian, on a quand même réduit le déficit. Alors vous
tout
critiquez la façon, le chemin, mais finalement, la France a fait des progrès. On en est à combien maintenant?
On va sûrement passer sous les 3% de déficit bientôt, sous le déficit public, et de manière générale sur les comptes sociaux, hein, on va être à l'équilibre l'année prochaine. On est à 400 millions dans le
Qu'est-ce que vous appelez les comptes sociaux?
C'est donc la retraite, la famille, la sécurité sociale.
L'assurance maladie, pas encore. On a le fonds vieillesse aussi qui pèse énormément.
Pourquoi le fonds vieillesse pèse énormément? Qu'est-ce qu'il y a dans le fonds vieillesse? Quand vous êtes chômeur, le fonds vieillesse vous remplace vos cotisations retraite. Et lorsque vous êtes un retraité pauvre, vous avez le minimum vieillesse et ce qu'on appelle le minimum contributif. Et c'est ça qui fait plomber le fonds de solidarité vieillesse, qui fait que la retraite est en déficit. Mais le gouvernement a pris des mesures qui fait qu'en 2020, le fonds de solidarité vieillesse, il va être aussi à l'équilibre.
Donc ça, c'est un satisfecit.
C'est un vrai satisfecit.
Emmanuel, vous êtes d'accord sur les comptes sociaux?
Ils sont vraiment à l'équilibre. Le problème, juste Alexandra, je termine, c'est que comment est-ce qu'on a obtenu cet équilibre? On l'a obtenu par trop d'austérité. Voilà. Et donc, on a eu d'un côté trop d'austérité, de l'autre côté les marges des entreprises qui se sont améliorées, mais sans création d'emplois, sans contrepartie. Et donc, le troisième élément, c'est la croissance et le chômage. On a, je pense que ce gouvernement a sciemment, je ne sais pas, en tout cas, il a choisi le rééquilibrage des comptes publics, le rééquilibrage des comptes des entreprises au détriment de l'emploi.
Emmanuel, ça coûte toujours de toute façon le rééquilibrage. l'image, ça coûte quelque chose, en
oui,
effet.
Sauf que
je me fais l'avocat du diable presque, mais
sur modèle
social. Ce qui est
intéressant dans ce qu'explique Christian, c'est qu'on voit bien qu'en fait, ce gouvernement, enfin ces gouvernements, sur tous les sujets, finalement, ils n'ont fait que uniformément essayer de raboter sans véritablement changer les règles du jeu. Et changer les règles du jeu, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire être capable d'identifier ce qui, dans notre modèle social, devait être préservé et ce qui devait avoir le courage d'être fondamentalement réformé. Le sujet de la sécurité sociale, c'est très intéressant. On a bradé dans ce quinquennat la sécurité sociale.
Pourquoi ?
La loi Leroux, on a donné les clés de notre système de solidarité aux mutuelles.
Alors on va en parler avec nous. Vous savez que nous avons comme
absolument,
nous avons comme
invité
le président de la mutualité
la
française.
Et ça franchement c'est inadmissible. On a fait des économies alors qu'il fallait penser différemment. Et sur tous les sujets c'est pareil. On voit bien que il y a jamais eu de réforme fondamentale. On a été un tout petit peu chatouillé certains sujets, mais sur lesquels on n'a pas fondamentalement
donc,
changé les règles
du jeu. Attendez, mais sur les entreprises, Christian l'a dit, par exemple, sur les entreprises, on a rétabli les marges des entreprises. Ça, quand même, ça faisait...
Oui, alors...
Est-ce qu'on peut pas donner un bon point?
Alors, j'essaie,
parce que
alors,
vous êtes
si vous voulez les bons points,
les
non, les bons points, je vais rapidement vous les donner.
Bah non,
moi, je trouve que le bon point que Christian devrait souligner, parce que c'est un de ses sujets fétiches, c'est quand même le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, qui a quand même été un actif de ce gouvernement.
Juste un petit, c'est jusqu'à Cahuzac, le président de la République n'a jamais abordé le sujet. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en œuvre ce qui se fait au niveau du G20, au niveau européen. Heureusement, on n'a pas été en dessous de ce que font les autres pays.
Ouais,
c'est pas
quand même
un gros satisfait pour un gouvernement de
gauche. Moi, je considère que toutes les parties de la loi Hamon qui concernent les droits des consommateurs,
ça, c'est vrai.
Toutes les parties de la loi Macron qui concernent la libéralisation, même s'il a été minime de certains secteurs, ça a quand même été une réussite. La COP21, ça a été une réussite. Moi, je considère qu'effectivement, la courbe du chômage commence légèrement à s'inverser là-dessus. Et puis, moi, je considère qu'effectivement, le CICE, le pacte de responsabilité, ok, c'était mal ciblé, peut-être mal calibré, mais cette idée de vouloir alléger les charges des entreprises, ça a été positif. Le suramortissement aussi. Et c'est là qu'on voit quand même, pour redire ce problème d'équilibre à chaque fois entre les lois, c'est que vous voyez bien que François Hollande, il a toujours été incapable de trancher. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu donner une petite contrepartie à chaque fois d'une mesure. Et c'est vrai que quand vous dites aux patrons, finalement, qu'ils sont pas contents aujourd'hui, mais pourquoi vous avez quand même eu 40 milliards d'allègements de charges, etc., ils vous disent, oui, mais notre vie, elle est plus compliquée qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que c'est un président qui vous fait 40 milliards de charges, mais qui d'un côté vous fait le compte pénibilité, vous prépare le prélèvement à la source, et fondamentalement, les patrons, moins que de l'argent, ce qu'ils veulent, c'est de la simplicité et de la simplification.
Non, ils veulent tout ça.
un point positif supplémentaire, c'est l'école quand même. Nicolas Sarkozy avait cassé la formation des professeurs. François Hollande a rétabli ça. Il a mis des moyens sur le primaire, qui est vraiment ce qu'il faut. Mais je rebondis quand même sur ce qu'a dit Emmanuel. Si vous allez voir le film La Sociale, qui fait le tour du début de la sécurité sociale, vous entendez un patron de 1946 qui vous dit « Il faut simplifier, il y a trop de mesures, oh là là, on est débordé par les questions administratives. » Donc ça, c'est une bataille du patronat, c'est un mot d'ordre du patronat depuis tout le temps. Moi, je trouve à l'inverse que pour un gouvernement de gauche, on ne s'attendait pas à ce que... Enfin, le côté positif, c'est enfin, à gauche, on peut parler de l'entreprise. On peut être de gauche et s'intéresser à l'entreprise et à la bonne santé des entreprises. C'est pas être de droite ou être pro-patronal que de dire ça. Ça, c'est un gain de François Hollande et j'espère qu'on va le garder à gauche pendant des années et des années. Par contre, ce qu'il a fait, c'est une baisse de cotisations sociales sans contrepartie et deux, la flexibilisation à outrance avec la loi El Khomri. Alors qu'il y avait quoi? Il y avait un autre discours de gauche à donner de dire non, une entreprise, c'est pas un endroit où il y a un patron qui doit se débarrasser le plus vite possible de ses salariés. C'est un collectif de création de valeur. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce collectif? Il faut que les salariés soient représentés au conseil d'administration, que les parties prenantes soient représentées au conseil d'administration, qu'il y ait une responsabilité sociale des entreprises, fiscale des entreprises. Voilà un discours de gauche, on pouvait le mettre en œuvre et il y a une complémentarité entre le public et le privé. Et quand on met des sous dans le public, ça crée des infrastructures, ça crée tout ce qu'il faut pour que le privé soit compétitif et non pas simplement lâcher des milliards.
Et sur le chômage, Christian, je vous relance, mais brièvement, oui, on en a énormément parlé.
Sur le chômage, il y a deux choses. Il y a l'austérité qui nous a plombé et qui n'a pas été la priorité du gouvernement pour la création d'emplois. Deux, il y a la démographie quand même. Entre 2000 et 2015, la France, on a plus 10% pratiquement de population active. En Allemagne, c'est plus 5%. Donc voilà, il y a un effet démographique qui joue pour la France pour plein de choses, contre la France pour les créations d'emplois.
Donc là, vous diriez quoi ? Demi-échec, demi-succès, vous diriez
Je dirais
résultat tardif, comme le dit le président de la République ?
Tout à fait, résultat tardif. Pourquoi ? Parce que l'orientation claire de la politique économique, ça a été les marges des entreprises et le rétablissement du compte budgétaire au détriment de la croissance et de la création d'emplois. On a découvert trop tardivement qu'il fallait former les chômeurs, que les emplois aidés étaient insuffisants. Et moi, bien sûr, là, on est le désaccord complet avec Emmanuel, on aurait dû faire de la réduction du temps de travail.
Mais la difficulté, c'est que ce genre de politique, ça demande du temps. Et ça, c'est vrai. Et c'était une des difficultés. Oui. C'est que quand vous rétablissez d'abord la situation des entreprises, ça n'est qu'après qu'elles embauchent. Et ce qu'explique Christian sur ce qu'aurait dû être une politique de gauche nouvelle, etc. Et là, on revoit bien toutes les limites de ce quinquennat. C'est que sur aucun sujet, on a été capable, encore une fois, de casser les codes et de réformer. On nous avait promis une réforme de l'État. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le gel du point d'indice des fonctionnaires. Et c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. On nous parlait de grandes réformes fiscales. Qu'est-ce qu'on a fait ? Aucune réforme fiscale.
On
c'était
arrive
quasi
au prélèvement
abandonné.
À la source
la réforme
en 2018,
bancaire. On nous promettait une grande réforme bancaire. On a quand même accouché d'une souris
petite réforme
sur
bancaire.
La simplification administrative. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. La
alors,
formation,
attendez.
N'en parlons pas.
Je vous
voilà. Donc,
moi,
si
je
vous
voudrais,
tout ça pour dire
pour
qu'on
auditeurs.
A abordé beaucoup de sujets. Ce gouvernement, notamment Valls, a abordé énormément de sujets. Mais encore une fois, à chaque fois, on a fait 10 ou 20% du chemin qui aurait été nécessaire. Et là, sur la loi El Khomri, moi, je considère, à la différence de Christian, que c'est un épiphénomène et que cette loi, elle n'a pas fondamentalement changé la vie des entreprises.
Alors, ma deuxième question, si vous le permettez pour les auditeurs, la question, est-ce que la France, c'est ce qu'on entend, est en train de couler. Est-ce que la France est menacée de faillite ? Je voudrais juste un tableau, parce que là, vous dressez tous deux un tableau très noir de ce dernier quinquennat. Enfin, voilà, les économistes, les journalistes, jamais contents. Est-ce qu'on est en train de couler, Christian Chavagneux ?
Mais non, ça c'est, vous savez, les évangélistes, quand ils arrivent dans les villages, ils commencent par dire « Le monde va s'écrouler, si vous n'allez pas à la messe dimanche, vous êtes mort. » Et c'est la stratégie de la droite aujourd'hui. Hein. Le monde va s'écrouler, la France est complètement raplapla, et donc il faut absolument faire quelque chose, et donc suivre ma politique, si vous voulez qu'on s'en sorte. Non, pas du tout. Les comptes sociaux sont à l'équilibre, le budget est à l'équilibre, la compétitivité, c'est vrai, des entreprises, il faut absolument la développer, mais il faut le faire dans un collectif de travail avec les salariés, pas contre les salariés, comme le fait le gouvernement et comme François Fillon le propose.
Emmanuel Le
Alors, on n'est pas obligé d'aller à la messe le dimanche, mais on n'est pas non plus obligé de danser sur le pont du Titanic, vous voyez, comme le fait Christian. Moi, je pense qu'il y a quelques problèmes majeurs qu'il faut adresser, parce que la compétitivité, le chômage, c'est des symptômes, c'est pas le cœur de nos problèmes. Moi, je pense qu'il y a 6 problèmes majeurs qu'il faut adresser
aujourd'hui.
Faites votre
liste,
aujourd'hui.
C'est pour le chef de l'État qui arrivera
d'abord,
en 2017, oui.
D'abord, le mauvais rapport qualité-prix de notre service public, c'est-à-dire que le problème c'est pas le niveau de dépenses publiques, c'est qu'est-ce qu'on a en contrepartie pour ça, et aujourd'hui clairement nos services publics ne nous délivrent pas ce qu'ils nous coûtent. Deuxième problème de fond, la complexité et l'instabilité réglementaire, juridique, fiscale, délirante, je vous rappelle 400 000 normes, 80 codes, l'OCDE nous dit quand même que ça nous coûte en France 60 milliards d'euros par an. Troisièmement, une fiscalité qui pèse trop sur le travail et pas assez sur ce qui ne crée pas de croissance, le couple infernal coût du travail trop élevé, marché du travail trop rigide, le manque de concurrence qui nous coûte 1 million d'emplois quand même, si on était au standard de concurrence sur notre marché intérieur, hein, les services, les marchandises, etc., c'est 500 000 à 1 million d'emplois, l'effondrement du système éducatif, et c'est sans doute ça le plus préoccupant, je ne vous passe pas, ça ne vous a pas échappé qu'on était les derniers en maths de tous les grands pays, donc
non,
si on ne s'attaque
échappé,
pas
croyez-le
à
bien.
Ces problèmes-là, y compris et notamment sur le problème majeur de l'éducation, qui est une urgence nationale absolue, peut-être la première de toutes, eh bien, si on n'adresse pas ces problèmes-là, on ne s'en sortira pas.
Christian Chavagneux,
avez-vous priorité.
Oui, voilà, la politique seule. Qu'il faudrait mener à présent pour la France, vous le défi, puisque Emmanuel voilà. S'est lancé là-dedans.
Moi, j'ai qu'une seule priorité, c'est faire comprendre que le public et le privé, c'est complémentaire, et que pour la France de demain, on a besoin de plus de fonctionnaires et de plus de services publics. L'OFCE a sorti une étude cette semaine qui est absolument incroyable, qui nous dit que les investissements publics en France, c'est l'équivalent de 1% du PIB. Alors, je prends les nouveaux investissements publics, parce que c'est un peu plus si vous prenez les routes qu'on répare, les hôpitaux qu'on répare. Mais si vous laissez de côté tout ce qu'on répare, qu'est-ce qu'on met de nouveau pour accroître la compétitivité de la France ? L'OFCE nous dit, il y a quelques années, c'était en moyenne 1%. Aujourd'hui, c'est 0,2%. 0,2%. Et la France décroche par rapport aux autres pays. La complémentarité publique-privée, c'est le succès des États-Unis, c'est le succès du Japon, de la Corée, des émergents, de la Chine. Nous, on est en train de tuer notre public. Et M. Fillon, avec ses propositions de réduction des fonctionnaires et des services publics, est en train de tuer l'avenir de la compétitivité de la France. D'autant plus que, je termine avec ça, on a une des démographie qui explose. Et donc, il faut plus d'hôpitaux, plus de crèches, plus d'écoles. On a besoin de plus de fonctionnaires, de plus de services publics pour demain.
Et bah, lisez juste un petit livre
Emmanuel,
qui s'appelle...
Allez-y.
Non, mais sur cette complémentarité, parce qu'on oppose souvent l'État et le marché, c'est plus de marché pour plus d'État.
Philippe Thiby...
Et Cramart, et
Francis Cramart, oui, tout
préfacé
à fait.
Préfacé par Emmanuel Macron.
Vous aimez les préfaces. L'État est-il le grand problème de la France? On y reviendra. Je pense qu'on va avoir de nombreux beaux thèmes de débat dans les mois à venir. Allez, on referme juste pour maintenant le dossier France.